Faire un film avec toute la forêt broussailleuse de complications pour réunir les conditions de sa fabrication, c'est en soi un acte de résistance. Le porter à notre entendement, c'est un acte militant. Voilà, c'est comme ça qu'on avait envie d'introduire. Autour de moi, donc trois invités. Diane Daigle, réalisatrice et coordinatrice de l'association Monde des Multitudes dans l'Aveyron, qui fait du cinéma itinérant. Ils vont se présenter un peu plus dans la conversation, on connaîtra un petit peu mieux leur tranche d'action. À ma droite, Jean-Pierre Thonne, réalisateur depuis 1968, dont le film Faire kiffer les anges a été diffusé hier. Diane, son film Blanche là-bas, Noire ici, a été diffusé aussi hier après-midi. Et Marie Guézard, intervenante cinéma devant différents publics, membre du collectif de Regards Nomades qui organise le festival et membre du conseil d'administration. Pour commencer, je vais vous faire commenter cette phrase-là, la phrase qu'on avait choisie, le cinéma, un acte de résistance. Donc chacun à votre tour, vous allez développer cette phrase de façon succincte, assez courte, on ne va pas faire des exposés. Et le but du jeu, nous, ce qu'on a envie de faire, après vous verrez si vous avez envie de participer, c'est de vous donner la parole aussi pour vous, qu'est-ce que signifie le cinéma, un acte de résistance. Je commence par Diane. Alors qu'est-ce que t'en dis de cette phrase? Qu'est-ce qu'elle te dit?
Cette phrase, elle parle surtout de la question de la production d'un film. Alors moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Mon premier film là, qui a été diffusé hier. En fait, nous, on l'a fait dans le jargon, ce qu'on appelle autoproduit. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il est produit par une seule personne, mais en l'occurrence là, il a été produit par une association. Avec l'idée justement de pas, c'est pas qu'on refuse l'argent institutionnel, on va des fois le chercher, mais en tant qu'association c'est beaucoup plus compliqué qu'en tant que boîte de production. Et c'est une manière aussi à un moment donné de récupérer de la liberté, de l'indépendance, et surtout une garantie de pouvoir peut-être réussir à aller jusqu'au bout. Parce que c'est vrai qu'on se dit, avec une boîte professionnelle, on a peut-être plus de moyens et plus de chances de réussir à faire son film, mais c'est pas toujours vrai. Alors que quand on est en autoproduction, quelque part, ça tient qu'à nous et évidemment nos faibles moyens, mais au moins ça tient qu'à notre propre volonté et pas forcément la volonté d'autrui. Et donc il y a une certaine partie de ma génération et de certains réseaux auxquels j'appartiens qui s'appellent les rencontres d'ailleurs, où on est vraiment dans la logique d'autoproduire nos films en fait. Après, ça va de pair avec une réflexion où certains d'entre nous, donc c'est pas mon cas puisque moi je m'occupe d'un circuit itinérant de cinéma et d'ateliers d'éducation à l'image, mais ça vient avec la réflexion qu'on veut pas forcément vivre du cinéma justement pour pouvoir garder notre liberté et notre indépendance. Et ça, c'est vraiment des positionnements assez forts qui existent de manière assez parallèle par rapport au monde de la production classique. Et je pense que c'est important d'en parler parce que, par exemple, un gros festival de documentaires comme les États généraux du documentaire à Lussas, en Ardèche, qui a lieu la troisième semaine du mois d'août et qui est un des grands rendez-vous du film documentaire d'auteur, il faut savoir que 50% des films qui sont présentés sont autoproduits. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de la diversité, en tout cas dans le documentaire, qui est liée à une forme de production alternative, associative, bénévole, militante. Et ça, je pense que c'est important d'en avoir conscience, et avec évidemment les contraintes que ça pose en termes d'économie de production, de réalisation et du coup de choix de vie par ailleurs.
Merci Diane. Jean-Pierre ou Marie?
Marie.
Le cinéma, un acte de résistance, comment tu le vis?
Le cinéma, un acte de résistance, je vais répondre un petit peu de la même manière que Diane, répondre depuis ma place, ma position, qui est plutôt celle du côté de l'action éducative et l'action pédagogique. Moi, mon parcours, j'ai commencé d'abord à travailler dans des salles de cinéma, donc dans l'exploitation. On évoquera aussi, je pense, avec Diane et Jean-Pierre, ce que c'est que se positionner en tant que résistant dans les problématiques liées autour de la diffusion. Et puis, dans le cadre de ce travail dans des salles de cinéma, j'ai petit à petit été amenée à travailler avec le jeune public autour de la sensibilisation, autour de l'analyse d'image. Alors l'analyse d'image, c'est un terme un petit peu barbare. Moi, pour faire un petit peu plus simple, mon travail, comme celui des intervenants qui participent au dispositif d'éducation à l'image, école au cinéma, collège au cinéma, lycéen au cinéma, qui sont des dispositifs nationaux que vous connaissez peut-être s'il y a des enseignants parmi vous. En fait, notre travail consiste à apprendre à regarder, apprendre à regarder. Parce que moi, je dis souvent aux enfants et aux adolescents et aux adultes avec lesquels je travaille que le regard, c'est un muscle, comme le muscle d'un sportif, et qu'il faut le chauffer, il faut l'entraîner, et que c'est quelque chose qui s'apprend. Et notre métier consiste surtout à dire ce que notre regard voit. Donc, par la sensibilisation autour des œuvres cinématographiques qu'on présente aux élèves, on essaie d'une part de chauffer ce muscle, de libérer la parole, parce que le cinéma est quand même un sacré vecteur aussi, surtout dans le cadre scolaire, de libération de ce qu'on est, de ce qu'on pense et de vers quoi on se projette, d'évocation aussi d'un potentiel politique, et ce, dès les petites classes. On commence à faire de l'analyse d'image à partir du cycle 3, donc à partir du CE2. Et c'est aussi, il me semble, deux choses très importantes qui sont en lien avec notre thématique. La sensibilisation aussi à ce que c'est que d'être spectateur. Un spectateur comme vous, comme moi, comme nous, ce n'est pas un ectoplasme passif dans une salle qui reçoit les choses, qui les digère, qui a passé un bon moment et qui s'en va en oubliant ce qu'il a vu. Un spectateur, c'est quelqu'un d'actif. Et quand on parle du cinéma, donc il y a production, production, réalisation, distribution, exploitation. Mais moi, je dis toujours aux enfants et aux adolescents qu'au bout de cette chaîne alimentaire, il y a le spectateur, il y a nous, et que les œuvres n'existent pas sans qu'il n'y ait quelqu'un pour les regarder. Donc l'idée, c'est de rendre ou de faire sentir aux enfants et aux adolescents avec lesquels on travaille qu'être spectateur, c'est être actif, poser un regard, réceptionner aussi le regard de quelqu'un sur le monde, et puis surtout grandir et... s'enrichir de ce regard-là pour, dans un deuxième temps, mais ça leur appartient, pour, dans un deuxième temps, agir sur le monde, puisque le cinéma est quelque chose qui peut ébranler le monde, en tout cas ébranler des vies ou des certitudes.
Merci Marie. Jean-Pierre ?
Oui, je dirais beaucoup comme toi. Je pense que, filmer, c'est décaper ce qui est sous l'idéologie, c'est-à-dire essayer de montrer une image du monde qui n'est pas l'imagerie d'Épinal dans laquelle on nous enferme et qu'on nous donne d'habitude sur le monde. Moi, je cite souvent une phrase de Bertolt Brecht qui dit « Ne dites jamais c'est naturel afin que rien ne passe pour immuable. Ne dites jamais c'est naturel afin que rien ne passe pour immuable. » Et moi, j'ai le sentiment que les trois quarts du temps, l'image est faite pour mettre un écran sur le monde, pour nous éviter de voir le monde. Et que je pense que le rôle du cinéma, c'est d'avoir un regard décalé pour justement donner à voir ce qui est caché. Voilà. Et l'autre chose, je pense qu'un des éléments qui est vraiment pour moi vital dans le cinéma, c'est un acte d'amour. Je veux dire par là qu'un film, ça se partage. Et c'est ça la grande différence avec tous les moyens de communication modernes, avec Internet, avec la télé. C'est que vous ne regardez pas l'image seule sur un canapé ou devant votre bureau. Vous le regardez avec d'autres citoyens. Et du coup, la parole peut s'échanger, les engueulades. D'un seul coup, vous réintroduisez de la vie dans un monde qui en a de moins en moins. C'est-à-dire on est chacun isolé sur nos petites planètes, nos petites tribus. Et le fait de voir ensemble un film dans une salle, ou qui n'est pas forcément une salle commerciale ou un festival, ça peut être une association qui, dans un quartier ou dans un pays, réunit les gens sur une place publique. C'est pas le lieu de la salle qui est important, mais c'est le fait de voir collectivement une image produit forcément du sens du débat, de la vie. Et c'est ce que j'attends du cinéma.
Merci. Alors, ils peuvent parler entre eux. Il n'y a pas de problème. On l'a fait ce matin, il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou on continue entre experts ? Qu'est-ce pour vous le cinéma, un acte de résistance ? Comment vous vivez ? Comment vous le voyez ? Comment ? Il y a Chloé et Sidney qui ont des micros. Michel.
Merci. Et d'abord, je voulais vous dire que je suis désolée, mais je pensais que ce débat commençait à 17h et j'avais prévu d'aller voir le film à 18h, donc je ne vais pas rester.
Vous avez le temps de vous poser la question.
Je suis désolée. Bon, voilà. Je suis tout à fait d'accord. En fait, le cinéma en premier lieu, c'est de l'art et bien en même temps, c'est du pognon. Et quand je vois, je connais des réalisateurs qui ont mis des années et des années à faire leurs films, et quand je vois les conneries, entre parenthèses, qui sortent sur les écrans et qui ont coûté quelquefois cher, et on se dit que quand même quelque chose ne va pas bien là-dedans dans le cinéma, parce que bon, il suffit qu'ils prennent, enfin, vous savez pourquoi ces films sortent et pas les autres. Et par exemple, moi qui suis beaucoup allée en Afrique, au FESPACO, j'avais entendu quelque chose d'épouvantable, c'était il y a longtemps, peut-être 10 ans ou 12 ans, il y avait des films qui étaient des films intéressants, et j'étais avec le secrétaire général du festival, ou enfin, qui ensuite est devenu ministre de la Culture, et je lui ai dit... J'espère que ces films vont sortir, vont être distribués. Il me dit, ma chère madame, ces films-là, vous les avez vus une fois, ils vont être rangés. Et voilà, pour lui, c'était ça. Il n'avait pas du tout compris ce que c'était. En fait, une œuvre d'art, c'est ça. Une œuvre d'art, s'il n'y a personne au bout pour la contempler, elle n'existe pas. Et le cinéma, c'est une œuvre d'art comme toute autre œuvre d'art. Voilà.
Enfin, il faut savoir que depuis les débuts du cinéma, il y a quand même, c'est une industrie. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Malraux. Enfin, les frères Lumière, c'était des industriels. Gaumont et Pathé, Charles Pathé, Léon Gaumont aussi. Enfin, voilà, c'est aussi une économie capitaliste comme tant d'autres. Faut pas se leurrer là-dessus. C'est vrai que le cinéma en France est auréolé comme ça, un petit peu. Mais derrière, il y a une énorme économie et il y a pas très longtemps. Il y a un rapport, je crois que c'est le rapport COPF qui est sorti et qui dénonce justement que c'est un des secteurs industriels en France qui est le plus concentré et où justement il y a des pratiques de concentration qui ne seraient même pas acceptables dans d'autres domaines, dans l'exploitation cinématographique. Donc c'est quelques groupes que vous connaissez tous qui développent des multiplexes ou des complexes qui produisent aussi des films. Et ces mêmes films sont les films qui sont ultra exposés, mais par nous aussi. Hein. Enfin, je veux dire, je me leurre pas. On est dans ce système-là. Et à côté de ça, il y a 700 films par an à peu près, enfin un peu moins, qui sortent dans ceux qui sont répertoriés, parce qu'il y en a aussi qui sont pas répertoriés. Enfin, dans les 700 qui ont des visas. Et c'est une cinquantaine de films qui sont le plus exposés dans l'année. Donc, enfin voilà, c'est important de replacer ça, toute l'industrie capitalistique qu'il y a derrière le cinéma. Et il y a énormément d'enjeux, de millions qui sont brassés. Et voilà, et ça, c'est pour ça qu'effectivement, il y a cette concentration au niveau des salles, concentration au niveau des financements sur certains films et surexposition de certains films. Et c'est vrai que la tendance, elle est à renforcement de ces phénomènes-là.
Ouais. Oui, si je peux me permettre, dans ton sens, le rapport COP vient mettre sur le papier ce que nous, cinéastes, il y a ici devant moi Jean-Pierre Galep, qui était un des initiateurs avec moi et d'autres d'un manifeste qui s'appelle Résister. On était 200 cinéastes. C'est novembre 91. On a alerté à l'époque les pouvoirs publics, le ministère de la Culture, à l'époque c'était Jacques Lang, sur les dangers que tous les indépendants, on allait disparaître des écrans. Pourquoi ? Parce que, en fait, des films sortent avec un pouvoir commercial aujourd'hui, c'est sur 800 écrans que vont sortir les blockbusters américains ou français d'ailleurs. Et à côté de ça, on avait repéré une centaine de films qui avaient été produits, donc avec de l'argent public, avec l'avance sur recette, qui ne sortaient même pas en salle, alors qu'il y avait parmi ces films des films absolument formidables. Donc c'était un vrai problème de société auquel on a... La gauche a répondu, parce qu'à l'époque, il y avait à la tête du CNC quelqu'un qui s'appelle Dominique Vallon, qui était quelqu'un qui était quand même assez engagé à sa façon, qui a essayé de résister un peu à Jacques Lang en nous permettant de créer une agence qui s'appelle l'ACID, dont le rôle était justement d'essayer d'aider les films qui sortent sur des petites sorties, Voilà. Et nous, on avait créé cette agence avec l'idée que la résistance à la concentration, la diversité allait demander des années de travail. C'était une lutte prolongée, c'était une guerre prolongée. On n'allait pas le faire en un coup de baguette magique. Or, le problème, c'est que ça, c'était il y a donc novembre 91. Depuis, les choses n'ont pas évolué, même pire, elles ont empiré. Moi, dans le temps, j'arrivais à sortir les films sur 6 copies, 4 salles Paris. Ensuite, ça a été sur une seule salle Paris. Et aujourd'hui, c'est plus que sur une séance à l'espace Saint-Michel. Donc, comment vous voulez que le public ait... Il y a un tel embouteillage des films sur les quelques rares salles qui continuent à montrer la création... que les films se chassent les uns les autres. C'est ce qu'on appelle un effet entonnoir. C'est-à-dire, chaque semaine, il va sortir 10 films indépendants, et donc il en restera un à l'affiche. Et donc, vous avez un turnover incroyable. C'est-à-dire, les films ne restent pas plus de 15 jours. Et même des fois, c'est dans la même semaine, les films sont débarqués. Donc, comment le public peut y avoir accès? C'est de la folie. Or, face à ça, il y a une régulation publique qui peut avoir lieu. Et je ne comprends pas... Enfin, si, je comprends trop... parce que c'est lié à des intérêts économiques qui sont ceux de Pathé Gaumont, et d'une part, et du GC d'autre part, maintenant rejoint par Carmit. Ces trois groupes bloquent le marché, et l'État pourrait très bien décider qu'il y a abus de position dominante. Le rapport COP qu'aujourd'hui, les sorties sur les régions parisiennes, c'est 80% des écrans qui sont tenus par ces trois circuits, c'est contraire à la déontologie. On pourrait les condamner. Pourquoi le ministère de la Culture, je vous garantis que ce rapport, il va être mis sous le tapis, personne ne va rien en faire, sauf si les cinéastes, les salles, les exploitants, les distributeurs qui crèvent. Moi, l'année dernière, j'ai 3 producteurs qui ont crevé. Quoi. Parce que vous sortez des films, vous les sortez dans une exposition tellement réduite que vous n'avez pas d'économie sur ces sorties. Et donc, les salles d'art et essai, elles galèrent comme des malheureuses parce qu'elles ne peuvent pas payer des gens pour faire du travail d'action culturelle parce qu'elles ont des trop petites économies alors qu'il y a de l'argent. Il y a 700, je me répète, il y a 770 millions d'euros qui est prélevé sur le billet du spectateur et qui est prélevé sur le 5,5% du chiffre d'affaires des télévisions. Cet argent qui est un outil public pour aider la diversité, au lieu d'aider la diversité, va aider à la concentration. Ça construit, un, les multiplexes, qui sont donc construits sans votre argent. Ça, c'est incroyable. Deux, ça va aider les intouchables, 20 millions d'entrées. Le gars, il se fait des couilles en or pour ses prochains films jusqu'à la fin de ses jours. Excusez-moi, vu qu'il a des réussites dans le commerce, ben, tant mieux pour lui. Il n'a pas besoin, en plus, d'avoir du soutien automatique du CNC. Bon, et tout est fait de cette manière-là. Et donc, il y a un vrai problème en France de négation de la diversité, d'asphyxie de la création. Et je ne comprends pas, mais même les associations de réalisateurs, pourquoi aujourd'hui, pendant toute une époque, on a essayé de faire bouger la société des réalisateurs de films. Aujourd'hui, excusez-moi, ce combat, il est mené en sourdine. Je ne les vois pas monter au créneau parce que tout le monde a peur. Et c'était à l'époque un producteur qui était très combatif sur ces questions, qui s'appelle Anatole Doman, qui était le producteur de Van Der, qui en est mort d'ailleurs. Il disait que c'est un système mafieux. Le système français est un système mafieux. C'est-à-dire ceux qui vont gueuler contre ce système, ben, ils n'arriveront plus à sortir leurs films. Et c'est pour ça que tout le monde se tait. Et donc il y a un problème majeur. Comment, face à un tel ennemi aujourd'hui, on exige des politiques publiques? Comment le public se mobilise là-dessus? Et comment on agit, justement, en allant sur le terrain, en continuant à passer ses films, en faisant que le public ait de nouveau l'envie de ses films, parce que pour qu'il en ait envie, il faut qu'il les voit.
Il faut qu'ils sachent aussi qu'ils existent. Oui. Donc il y a aussi une communication, une promotion à faire dessus. Marie, ton avis sur...
Par rapport à la question que soulève Jean-Pierre, il y a deux questions. Il y a la question des films qui ne sont pas distribués, des films de festival. qu'on a l'habitude, qu'on connaît bien. Pour ceux d'entre vous qui fréquentaient des festivals, l'USAS a été cité, le cinéma du réel aussi. Moi, je sais que chaque année, je découvre des films merveilleux, des films ambitieux, des films courageux, que je ne vois pas et que vous ne verrez pas en salle, qui ne trouveront pas distributeurs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ensuite les films qui trouvent des distributeurs, mais qui ont une visibilité quasiment inexistante. Et moi, de là où je suis, c'est-à-dire du côté du jeune public ou des ados, quand je leur parle de qu'est-ce qui fait leur choix ou sur quoi ils font leur choix, quels sont leurs critères de choix pour aller voir un film, qui peut être aussi, je pense, l'ensemble de ceux qui... Enfin, qu'on peut agrandir à ce qui va guider aussi les choix de leurs parents, c'est le marketing, en fait. C'est-à-dire que dans le budget d'un film, il y a souvent... le cachet des acteurs qui parfois est mirobolant, mais il y a aussi tout le marketing et toute la com qui est mise en place. Le film est un produit que l'on place. Et quand on parle de résistance, c'est ce que fait le festival, c'est ce que je pense nous faisons tous les quatre autour de cette table, c'est que nous n'envisageons pas le cinéma comme un produit et nous essayons d'attirer l'attention. Comment dire Il faut faire preuve de curiosité, quoi. Voilà. Il faut être curieux, aller vers ce qui n'est pas évident, aller vers ce qui n'est pas facile. Et ça, c'est valable pour les jeunes comme pour ceux qui le sont un peu moins. Et cette curiosité vis-à-vis du cinéma, c'est aussi une curiosité vis-à-vis du monde et vis-à-vis de l'autre qu'il faut avoir et qu'il faut ouvrir. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que le marketing a une force de frappe terrible. Et c'est très difficile de lutter contre ça à quelques niveaux qu'on soit, qu'il s'agisse d'exploitants ou de gens qui travaillent dans l'éducation à l'image, c'est extrêmement difficile. C'est un acte de résistance au quotidien.
Oui, mais vous voyez, il y a des lois dans ce pays, normalement. Je veux dire par là que quand Carmins va demander pour passer un film annonce 120 000 euros de film annonce, qui va passer dans sa salle, c'est ce qu'on appelle les marges arrière dans les supermarchés.
Tu peux expliquer ce que c'est ? Les films annonces, c'est quoi ?
Les bandes annonces
avant le film.
Qui annoncent les films.
Donc ils demandent
ont des positions de monopole sur le marché, ils demandent des sommes astronomiques au distributeur.
Donc le distributeur du film qui va passer doit payer.
Payer à Monsieur Carmins des sommes colossales, ou que ce soit UGC, voilà. Et expliquez-moi, ça s'appelle des marges arrière en système des supermarchés, c'est interdit. Et donc on pourrait très bien dire. À partir de l'instant où une salle pratique ces pratiques de bandits, de voyous, ils ne toucheront plus du soutien automatique du CNC. Nous, c'est une revendication qu'à la CID, on a développée en disant il doit y avoir le système de soutien à l'exploitant doit être conditionné par un certain nombre de règles publiques. S'il y a plus d'un écran utilisé pour le même film. Aujourd'hui, ils viennent de signer des accords que le ministre de la Culture présente comme génial. En fait, j'ai regardé. Ça, c'est pratiquement 4 films peuvent occuper 30% des écrans d'une même salle dans un multiplex avec les versions anglaises, etc. Mais les versions sous-titrées, les versions non sous-titrées. Et les autres, quelle place il en reste, quoi ? Je veux dire, là-dessus, on pourrait dire une salle qui pratique ça, elle n'a plus de soutien automatique de public. C'est l'argent du spectateur. Cet argent doit servir à la diversité. Et donc, ce sera un moyen. De même, on a dit à la CID une autre revendication qui est toutes les salles qui travaillent à moins de 40 copies ou moins de 30 copies, c'est les copies DCP, donc numériques, qui arrivent aux salles. L'exploitant qui doit faire un travail, et quand je dis l'exploitant, ce n'est pas seulement l'exploitant commercial, ça peut être aussi un réseau de cinéma itinérant, c'est-à-dire celui qui prend des risques. Qui doit faire du temps, faire un travail d'aller dans les écoles, sur le terrain, dans les MJC, parler du film, montrer la bande-annonce avec, enfin, faire tout un travail, aller mobiliser les radios locales pour le faire. On pourrait penser que ce programmateur qui prend ce risque a un soutien sélectif, parce que ça existe, les salles d'art essai reçoivent un soutien sélectif, mais qui soit majoré, nous on dit multiplié par deux, pour les films qui sortent à moins de 40 copies, pour remettre de la diversité dans ce système, pour attaquer la concentration. Est-ce que vous voyez des politiques publiques qui vont dans ce sens-là ? Non. La gauche a toujours a été exactement la même politique que la droite.
C'est soutien au marché. On a de plus en plus, on se gausse qu'il y a maintenant 200 millions de spectateurs. Oui, mais sur quel film ? Toute la création, il y a de moins en moins de monde qui y va.
La CIDE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Le film de clôture samedi prochain sera un film soutenu par la CIDE, Swagger, et on avait déjà diffusé beaucoup de films de la CIDE. Mais ça, c'est, enfin, pardon, je rebondis avant. C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, vas-y. Non, allez-y.
Oui, merci. Oui, il y a eu d'autres films de la, il y a d'autres films la CIDE d'ailleurs dans la programmation hein, oui. Du côté de Guédiguian par exemple. Oui, je voulais d'abord dire une chose, c'est que je suis tout à fait épaté de voir mon ami Jean-Pierre Thorne encore capable d'engagement, de colère et de bagarre. Je crois que quand il n'y en aura plus qu'un, ça sera lui, c'est sûr. Quel courage. Et elle continue à essayer de faire des films dans ces circonstances. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis pas étonné que ça se passe comme ça. Tu dis, il y a des lois. Non, parce qu'il y a une autre dimension. La phrase là du débat, moi, je crois pas que le cinéma soit en soi un acte de résistance. Il y a de la résistance. Il y a des films qui sont des films de résistance. Il y a des actes de résistance dans le milieu du cinéma. Mais le cinéma en soi n'est pas ça. Il est même majoritairement le contraire. Il est un outil de domination. Et c'est pour ça que le cinéma d'auteur indépendant, marginal, etc., n'arrive pas à avoir sa place. Parce que c'est à ça que ça sert, le cinéma, dans la tête des gens. Pas seulement à gagner beaucoup d'argent, bien sûr, mais aussi à, c'est un outil de domination idéologique, politique, etc. Certains l'ont compris depuis très longtemps. On sait que les nazis avaient une stratégie de domination mondiale à travers le cinéma, qu'ils produisaient des films, qu'ils les diffusaient. Ils avaient prévu de conquérir l'Amérique latine idéologiquement à travers le cinéma, des choses comme ça. Comment dire, le cinéma qui se fait majoritairement, c'est un cinéma de domination idéologique. Les États-Unis dominent le monde en grande partie à travers le cinéma et la diffusion de leur cinéma. Ils ont d'ailleurs acheté des salles un peu partout. L'accord qu'ils ont passé après la guerre avec la France, c'était pour la diffusion de leur cinéma. Ils savent très bien ce que ça veut dire. Alors c'est une domination qui, la domination idéologique, qui débouche évidemment aussi sur une domination économique. C'est évident, c'est très lié. Mais c'est une bataille fondamentale, politique, qui se mène. Et c'est pour ça que la résistance, elle est si difficile, non, parce qu'ils ont des outils. Il ne faut pas s'attendre à ce que d'eux-mêmes, ils arrangent les choses. Hein, et que ce soit ce qu'on appelle la gauche au pouvoir ou la droite, ils sont pas là pour combattre l'idéologie dominante. Hein, au contraire, pour la faciliter. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse bataille. La résistance dans le monde du cinéma est vraiment une grosse bataille. Et encore, quelqu'un parlait du cinéma africain, parce que quand on voit le cinéma français, ça existe encore. Enfin, le cinéma d'auteur, le cinéma indépendant, respire encore un peu, arrive un peu à être vu. Un film africain, j'en parle en connaissance de cause, pour qu'ils survivent, c'est, on le sait dès le départ, c'est cuit. Hein. Donc eux, ils sont laminés complètement, même s'il y a des bouffées, il y a des auteurs, il y a des endroits où d'un seul coup il se passe un petit quelque chose, mais c'est tellement minoritaire. Donc c'est une bataille mondiale dans laquelle le cinéma joue un rôle de colonisateur dominant de l'idéologie dominante. Voilà.
Ça fait peur. Tiens, Jean-Pierre, tu ne vas pas éteindre, tu vas passer le micro à ta voisine, s'il te plaît. Merci.
Oui, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau ? Bon, parce que des festivals
aller
comme
au festival,
ça,
déjà.
Voilà, c'est ça. Ouais, privilégier les petites salles, ne pas aller dans les centres commerciaux. Là. Et moi, je n'ai pas vu encore de pétition là-dessus. Est-ce que les réalisateurs, est-ce que... Enfin, je sais pas, comment informer le public ? Est-ce que le fait de pétitionner, ça ne peut pas aider à faire connaître ce combat-là, enfin la situation ?
Il y a eu beaucoup de pétitions, justement, pour empêcher que des salles indépendantes soient avalées par des multiplexes. Je prends l'exemple de Montpellier, où on a sauvé les diagonales, en quelque sorte,
qui allait être bouffé. Enfin bon, et après, oui. Enfin bon, c'est un partage du marché, finalement. Gaumont a laissé ses salles au Diagonal. Mais enfin, on fait qu'il y a des salles à RSC qui sont restées dans ces villes. Mais récemment, c'était... Moi, j'en sais quelque chose, parce que j'étais vraiment impliqué dans cette lutte. C'est le Méliès à Montreuil, que la mère Dominique Voynet, verte, donc élevée, a voulu donner au privé. Et donc, pour le donner au privé, il fallait qu'elle licencie Stéphane Goudet, ce qu'elle a fait sur des motifs, mais vraiment fallacieux, une honte. On l'a accusé d'avoir récupéré de l'argent. Enfin, finalement, il a gagné après des années après pour prouver que tout ça était de la calomnie. Mais en attendant, il a fallu que les salariés fassent 46 jours de grève, que le public se mobilise. On a manifesté dans la neige. Ça a duré un an et demi et on a gagné. On a fait réintroduire Stéphane et son équipe. Mais là, c'était en gros une mère EELV qui faisait ça. Donc, vous voyez, mais dans toutes les villes, à Lyon, c'est quand même incroyable. Il y avait une salle formidable qui s'appelait le CNP. Et en fait, c'est un mec qui s'appelle Moraviov qui s'est débrouillé pour le vider. Et le gars, en rentrant des vacances, bon, je connais bien le programmateur, en rentrant, on lui avait retiré toutes ses... La salle avait été vendue à un fonds de pension américain et lui, on lui avait retiré toutes ses machines et la salle était vide, quoi. Donc, c'est des pratiques de voyous. Mais c'est vraiment le capitalisme dans la phase la plus grossière qu'on a vue chez les Américains, mais qui est chez nous. Hein. Et je trouve ça incroyable que face à ça... Donc là, il y a eu des grandes pétitions. Le public, il y a eu des centaines. Et nous, on a été une centaine de cinéastes. Vous croyez que ça a fait bouger le CNC et le maire de Lyon? Parce que le maire de Lyon, M. Collomb, était tout à fait au courant. Ils en avaient envie pour que le centre-ville, maintenant, vende des vêtements. Et donc, ça les embêtait une salle. Et ils ont complètement été complices de ça. Donc, c'est ça qui est terrible. C'est que nous, on voit, en tant que cinéastes, nos espaces se rétrécir de plus en plus. Et les pétitions, moi, je veux bien, mais il faudrait que les politiques bougent aussi. Qui, en France, moi, j'ai essayé à un moment donné de faire que le front de gauche prenne des positions claires. Je suis allé à deux reprises au Sénat, on a mené des débats avec des copains de la CGT. Ben, excusez-moi, mais ça reste toujours, la dernière roue de la carrosse. Ils s'en foutent, quoi. Donc y a un vrai problème dans ce pays à comprendre que la diversité culturelle, c'est fondamental pour la démocratie et il faut sortir de la position actuelle qui est que chacun se bagarre comme il peut dans son coin.
J'ai un petit peu envie de dire un truc positif. Je crois qu'il y a quelque chose d'important dans tout ce merdier-là. C'est aussi le renouvellement et les alternatives, comme bon, là où on est évidemment. Mais moi non plus, j'ai pas beaucoup d'espoir que ça s'arrange vraiment au niveau des salles de cinéma. Mais je crois que ce qu'il y a de bien avec le cinéma, c'est qu'il est capable de trouver bien d'autres formes aussi d'existence, et que si ce système-là a plus de défauts que de qualités, il en a aussi quand même quelques-unes, pas le système capitaliste dont on parle et qui est cause de tout ça, mais les avancées. Et je pense j'ai envie de croire qu'il peut quand même exister des choses à côté qui vont un petit peu sauver la donne. Quand je pense à l'autoproduction, à des associations comme celle-ci qui portent le festival, quand je pense à tous les systèmes de crowdfunding, de production par le financement individuel et des choses comme ça, c'est quelque chose qui peut être difficile à accepter, je crois, quand on est un vrai amoureux du cinéma, parce que ça peut nuire au cinéma tel qu'on l'entend et tel qu'on l'a toujours entendu. Mais c'est quand même quelque chose qui existe et qui est important. Et du coup, je me dis que c'est peut-être le cinéma un acte de résistance. Effectivement, c'est ce cinéma-là est un acte de résistance, mais effectivement, en soi, ce n'en est pas un. Mais quand je pense à tous les... Même sans plus parler spécialement de cinéma, mais à toutes les images, tous les films qu'on voit qui sont des montages d'images filmées un petit peu partout dans le monde, ce qui n'était pas possible avant, et à tous ces rassemblements de témoignages visuels, je me dis que voilà, il y a quand même l'envers de la chose, c'est aussi que l'image est elle est un élément absolument essentiel de notre actualité, et que si elle est elle peut être absolument tyrannique et très dangereuse, c'est elle aussi qui peut être l'acte de résistance le plus important. Et je crois qu'il y a énormément de gens un peu partout qui le prouvent tous les jours et qui trouvent encore des nouveaux moyens quand même de la faire parler et de s'en servir. Alors c'est particulier, mais c'est important.
Comme dans tous les domaines, c'est des nouvelles formes à inventer, des formes de résistance, de lutte. Alors en fait, elle voulait poser, je pense, la même question. Ça. Ouais.
Alors moi, si je peux continuer un peu sur la diffusion aussi et l'appropriation, je fais partie des gens qui sont quand même un peu grandis avec Internet, et même s'il a des défauts, ça permet aussi, je pense, pour diffuser le cinéma qui est refusé par les salles, qui est, donc comme vous dites, qui est compliqué à sortir, il existe aussi des alternatives de ce côté-là. Il y a pas mal de films qui arrivent à donc, s'autofinancer ou faire du crowdfunding, où les gens ensuite le diffusent ça gratuitement ou via une récompense, via des systèmes donc de crowdfunding ou autres, pour les gens, et ça permet aussi une diffusion beaucoup plus énorme que des fois jusque dans les simples salles. Il y a aussi des gens qui ont peur d'aller au cinéma, qui ne veulent pas forcément y aller, qui n'ont pas l'habitude de le faire. Si on n'a pas l'habitude d'aller au cinéma, on n'y va pas, alors que pour certaines, on va dire pour la jeune génération, Internet reste aussi un média très facile, plus intuitif d'y aller. On ne le regarde pas forcément tout seul devant son écran aussi, on peut le regarder à plusieurs, on n'est pas forcément 50 dans la salle, mais on peut très vite se retrouver à 4 ou 5 amis à regarder des choses. Et pour la diffusion du cinéma en tout cas, je pense que c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Ça permet, on va dire, d'être vu, quoi. Et comme l'a dit Marie, le but d'un film, c'est aussi qu'il soit vu par des gens, quoi, que le message puisse être passé et touché, quoi.
Oui, par rapport à les personnes qui sont spectateurs, spectatrices ou tout simplement amoureuses ou amoureux du cinéma, il y a plein de manières de contribuer à ce que le cinéma vive. Voilà, nous, on s'occupe d'un circuit itinérant de cinéma, on est exploitant de cinéma, donc exactement comme une salle fixe, sauf qu'on est en itinérance. Il faut savoir qu'on est 97 en France. On représente moins d'1% des entrées de l'année en France, et ces circuits itinérants de cinéma, vous en avez un qui est porté par l'Estive en Ariège, ces cinémas-là ne vivent pas sans bénévoles, sans personnes qui ont envie de s'investir, qui ont envie de porter des séances à RSC ou des séances un peu différentes, qui soulagent par exemple les salariés pour certains qui ont des salariés de ces structures-là, qui aident à ce que ce type de cinéma puisse vivre et puisse aller à la rencontre du public, et pas simplement que projeter des films, mais aussi créer des moments de convivialité, qu'il y a l'organisation d'une buvette, ou même un ciné-repas, ou une première partie musicale. Enfin voilà, donc il y a plein de manières. C'est aussi, enfin moi, quand j'ai longtemps habité dans des grandes villes. Et j'étais déjà investie à organiser plein de choses en dehors de mon travail. Quand je suis arrivée à la campagne, je me suis rendu compte, moi j'habite en Aveyron, je me suis rendu compte que si j'avais envie de voir tel concert, si j'avais envie de manger comme ci ou comme ça, eh ben il fallait se prendre un peu par la main et quelque part devenir les propres organisateurs de ce qu'on avait envie de voir ou de partager avec les autres. Et je pense que l'avenir du cinéma RSC, indépendant, alternatif, on l'appelle comme qui englobe tout ça, ça pourra vivre que si effectivement on n'est plus sur cette barrière spectateur, organisateur, exploitant, et que justement on arrive à travailler ensemble, et voilà, Donc il y a des possibilités. Et pareil, effectivement, je suis consternée que ce soit une mairie socialiste qui est accueillie à bras ouverts avec des financements publics, un multiplex dans le centre de Rodez. Mais ça me trouve le cul, quoi. Enfin, vraiment, et que quand je vois que les associations militantes, que je nommerai pas, continuent à organiser des projections militantes dans ces cinémas, enfin, je veux dire, les mêmes qui disent qu'on va pas aller au supermarché, organisent des séances chez eux, mais faut qu'on m'explique, je comprends pas. Que ce soit le supermarché de la bouffe ou le supermarché de la culture, no way. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Vraiment, il y a des choses qui me dépassent. Et voilà, donc effectivement, vous avez, et nous tous, parce que moi aussi je suis spectatrice, on a un rôle à jouer. Alors après, faut faire attention, parce que petite salle, ça ne veut pas dire non plus jolie petite salle non capitaliste. Je veux dire, il y a une partie des petites salles, et pour cause, parce que je suis en milieu rural, donc je le sais bien, il y a des grands groupes qui s'appellent aussi Cap Cinéma et VO, et qui ne sont pas des tendres non plus, et qui gèrent une partie des salles, des petites salles en milieu rural, qui font un peu d'arrêt et d'essai pour toucher la subvention arrêt et essai, ce que je trouve complètement hallucinant. Enfin, vraiment, moi, il faut savoir qu'il y a des multiplexes qui touchent les subventions ARS. Faut le savoir. Enfin, et qui, sur leur bonbons qu'ils vendent, ils ne payent aucune taxe. Parce qu'en tant qu'exploitant de cinéma, sur le ticket de cinéma que vous achetez, on paye une taxe qui revient dans un grand pot commun au CNC pour aider à la production, pour aider à l'exploitation, pour aider à la distribution. C'est ce qu'on appelle le système vertueux à la française. Voilà. Mais il faut le reconnaître quand même. Je veux dire, c'est unique au monde. Je veux dire, il y a quasiment que... Voilà, d'accord. Mais il faut quand même dire que dans d'autres pays, ça n'existe pas. Et c'est aussi ce qui fait que le cinéma français, il est aussi florissant, même si on peut le critiquer. Et même si c'est une grosse machine de guerre, une machine capitaliste, il faut le dire aussi. Enfin, voilà. Et autre chose sur laquelle il faut aussi nuancer, c'est vrai que, et que tu as dit un peu d'une certaine manière, c'est que le numérique a permis une démocratisation, en tout cas de la production et de la réalisation, et qui fait aussi qu'on a une plus grande diversité de films. Et évidemment, bah, y a un moment donné, l'effet d'entonnoir, il est là aussi. C'est-à-dire comment on peut diffuser aussi tous ces films-là et même les regarder. Enfin, je veux dire, pour cause, moi, j'ai toujours 30 films chaque semaine qui sont là et que j'ai pas le temps de regarder. Voilà. Mais en tout cas, moi, je pense qu'effectivement, si on veut faire vivre le cinéma, eh ben, c'est à nous tous et nous toutes de se retrousser les manches et qu'il y a des possibilités de... Voilà, de... Et même faire des... Je suis désolée, moi, j'ai des copains, c'est une association sur Toulouse, ils organisent des projections chez l'habitant. Bah, pourquoi pas ? Enfin, pourquoi pas, justement ? Effectivement, il y a d'autres manières de regarder le cinéma, de partager le cinéma, d'être critique vis-à-vis du cinéma. Et ben, moi, je ne vais pas m'insurger contre ces pratiques. Même en étant exploitante, je me dis que plus il y aura de gens qui regarderont le cinéma, et bah plus ils viendront aux projections qu'on organise, en fait. Voilà.
Oui, monsieur Thorn tout à l'heure a parlé de marge arrière concernant les supermarchés. Qu'est-ce que c'est?
C'est le fait que vous vendez un produit et en plus vous faites payer à la personne qui expose un produit le fait, comme vous avez été en situation de monopole, vous lui donnez une belle place dans le rayon et vous lui faites payer des sommes en plus. Voilà, donc votre bénéfice n'est pas seulement sur la vente du produit lui-même, que sur le fait que vous lui commercialisez un espace pour faire la promotion du produit. C'est ce qu'on appelle les marges arrière, qui normalement sont illégales.
Bon, la question que je me pose, c'est à travers le développement précédent sur les multiplex, les cinémas RSC, qui sont rattachés bien souvent aux multiplex. Moi, j'habite à Montauban, nous avons un multiplex à l'extérieur de la ville. Et ensuite, bon, il y a un cinéma classé RSC dans la ville, mais qui est rattaché quand même au multiplex. Qui organise ce cinéma, des débats qui s'inscrivent dans la résistance, je dirais. Donc, en tant que spectateur, qu'est-ce qu'on fait? On boycotte? On prend sa voiture pour faire des 50 ou 60 kilomètres pour aller dans l'endroit où est organisé quelque chose qui nous paraît à notre système-là. Bon, moi, ce n'est pas le cas. Moi, je fréquente cette salle. Bon, voilà, c'est une question que je pose. Ensuite, bon, pour moi, le cinéma, oui, résister, mais en fait, pas seulement. Pour moi, à travers le cinéma, c'est exister, tout simplement. Exister davantage, Parce que bon, la résistance, bien sûr, mais quand on parlait le grand public tout à l'heure, on parle du film Intouchable, si on leur parle cinéma acte de résistance, là on est à des milliers de kilomètres. Les gens vont dire oui, moi je vais au cinéma pour me divertir, pour changer les idées. Moi je repense, je crois que c'est Guédidian, j'avais lu l'interview, il disait réenchanter le monde. C'est vrai que moi, à travers le cinéma, c'est ça que je recherche aussi, quoi. Parce qu'en fait, on est dans ce monde-ci. Bon, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru que un autre monde était possible. Je pense que d'autres choses sont possibles, mais il faut se coltiner ce monde-là, quoi. Hein. Et le cinéma m'aide à cela, finalement. Quand je vais au cinéma, parce que si je vois un film comme celui de hier soir que je n'avais pas vu, c'est un éclairage supplémentaire, c'est comprendre, on ne rit pas, on ne pleure pas, mais on comprend davantage. Et donc c'est résistance, mais c'est existence tout simplement. Quoi.
C'est désincarcérer les imaginaires, comme on disait en cérémonie d'ouverture.
Pour répondre quand même, grâce au circuit itinérant de cinéma, vous êtes à moins de 20 minutes d'une projection régulière de cinéma. Donc l'argument, je l'entends. Enfin, moi, j'habite à la campagne, de la route, on en fait. Donc du coup, et je suis désolée, moi, je préfère faire de temps en temps un peu de route et être sûre de ce que je mange. Et c'est la même chose pour le cinéma. Voilà. Voilà. Non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est une histoire de qu'est-ce qu'on a envie, enfin, à qui on a envie de donner son temps et son argent.
Je voudrais vous répondre parce que c'est vrai que de plus en plus, il y a comment dire, une complémentarité entre l'art et ses porteurs, ils mettent, hein, et les multiplex. C'est-à-dire, les multiplex passent les films hollywoodiens ou la grosse artillerie, je dirais, qui sort sur 800 ou 900 copies françaises, le dernier film voilà, de Besson, etc. Mais l'art et essai ne passe pas tous les films. Je serais curieux de savoir à Montauban si un film comme Je suis le peuple d'Anna Roussillon ou un film comme Dans ma tête un rond-point, film formidable, ou Les Messagers de Laetitia Tura. Est-ce que vous les avez vus? Or, Les Messagers, c'est un film vraiment essentiel. C'est un film qui parle aujourd'hui des 20 000 morts qu'il y a dans la Méditerranée et comment les peuples africains arrivent à faire le deuil alors que leurs morts, ils ont disparu. Pour moi, c'est un film de l'importance de la Shoah. C'est-à-dire, d'un seul coup, on voit des bulldozers qui laminent des plages pour cacher les corps qu'on repêche de la mer. Voilà, et ce film, il devrait être vu partout. Déjà à la télévision, il ne l'est pas. En salle, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que c'est des tout petits distributeurs qui n'ont pas la surface économique. Et donc les salles d'art et essai disent oh, « Oui, il est intéressant ce film, mais il n'est pas pour moi. » Et c'est ça qui est insupportable. Que les propres salles art et essai fassent un tri qui est aussi un tri économique. Donc il y a maintenant vraiment trois types de cinéma. Il y a d'un côté l'artillerie lourde, enfin voilà. Moi, je suis pour qu'ils y soient. Le problème, c'est qu'ils laissent la place un peu aux autres. Ensuite, il y a l'art et ses porteurs, le dernier Téchiné, etc. Qui, voilà, le dernier Woody Allen. Et ensuite, des films qui... Il n'y a plus qu'une centaine de salles et peut-être des réseaux associatifs vont passer. Et ce cinéma, c'est vraiment la création d'aujourd'hui, des gens qui cherchent, qui innovent, qui inventent de nouvelles écritures. Qui a vu Les Anges blessés, un film Kazakhstan formidable qui est actuellement à Paris sur une seule séance personne ne l'a vu. C'est un film admirable qui renouvelle l'art cinématographique, la façon de filmer, le travail sur les couleurs, ce que ça raconte aujourd'hui d'un pays comme même le Kazakhstan qui sort, qui est laminé économiquement. C'est des films qui sont beaux, qui enchantent le monde à leur façon. Pourquoi ces films n'arrivent pas jusqu'à vous? Il y a un vrai problème du droit du spectateur que vous devez exercer pour voir l'ensemble de la diversité de la création dans ce pays. Et ça, ça devrait concerner tout le monde. C'est pas seulement au public, c'est aux politiques de se saisir de ça, de faire que des salles ouvrent, de faire qu'il y ait un soutien majoré pour les salles qui prennent des risques. Voilà, tout ça, c'est un ensemble. Et pour l'instant, je m'excuse, il n'y a pas de politique globale de gauche dans le cinéma, une politique publique. C'est ce que nous réclamons, les cinéastes. Et on voit bien que pour l'instant, on prêche dans le désert. Donc j'ai pas du tout envie d'être le dernier des Mohicans, comme tu dis, Jean-Pierre. Non, parce que le problème, moi je veux bien toutes les histoires d'Internet, ça me fait rigoler. C'est quand vous êtes devant un film, vous avez besoin de 250 000 euros pour les faire, je vais faire un crowdfunding, je vais quoi avoir 20 000, 60 000, et le film, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que j'ai des techniciens à faire travailler pendant des mois. Il faut que je les paye, parce que derrière, il faut qu'eux-mêmes ils puissent survivre dans la profession. Et je vais rester avec une monteuse pendant 18 semaines. Voilà, comment je fais pour la payer, ma monteuse ? Et moi, comment je survis ? Et mon producteur, comment il arrive à faire tourner sa baraque, voilà. Donc l'ensemble de ces problèmes font que la machine est totalement grippée. Les productions, moi je racontais, j'ai 3 productions qui se sont cassées la gueule cette année. Je suis obligé de... Imaginez bien, j'ai déjà pas été payé par ces productions, ou très mal, parce qu'on me paye en droit d'auteur, parce qu'on n'a pas d'argent pour faire des salaires. Et on paye le minimum qu'ils peuvent avec le système des intermittents pour qu'on puisse... rester dans l'intermittence. Donc déjà, on utilise un système, c'est de la bricole pour que les films puissent se faire. Mais ensuite, là maintenant je suis à la retraite, j'ai pas de retraite, parce que pourquoi ? En fait, sur les droits d'auteur, ça ne cotise pas pour la retraite des auteurs, donc ça quand même c'est aussi un problème. Et troisièmement, je suis obligé, figurez-vous, de racheter les droits de mes films, parce que le producteur fait faillite, et donc des fonds de pension américains ou autres vont aller... racheter les films, vous allez les trouver sur Netflix. Moi, j'ai donné une cession de droit d'auteur sur 20 ans ou 30 ans à un producteur, mais je ne possède pas mon film. Si je veux décider s'il va sur tel ou tel circuit, si je veux convaincre un éditeur vidéo de les sortir, il faut que j'en sois propriétaire, parce que j'aurais beau crier, on dira, mais toi, tu as signé une cession de droit, nous, on a racheté à ton producteur, ferme ta gueule. C'est ça qui se passe. Et donc, me voilà en plus dans l'obligation... d'emprunter de l'argent à ma banque pour arriver à racheter mes films pour pas qu'ils soient pillés par d'autres où je vais les retrouver sur des réseaux sur lesquels j'ai pas envie qu'ils soient. C'est quand même complètement dingue la situation de la création dans ce pays. Vraiment, je le dis, c'est complètement aberrant, quoi. Et moi, je m'étonne que face à ça, les associations de réalisateurs ne soient pas plus combatifs et plus... Moi, si vous voulez, j'étais avec Jean-Pierre ici présent, fondateur de l'ACID, et je suis même... à un moment donné, bon, j'arrive à un âge où j'espérais que les choses avancent. Or, elles n'avancent pas, elles reculent. Elles reculent. Et donc, comment comprendre que nos camarades ne soient pas plus virulents c'est-à-dire, en fait, on a un système vraiment vicieux, c'est-à-dire chacun essaye de sauver sa peau comme il peut, y compris sauver sa peau sur le dos du voisin. Voilà. Moi, c'est ce que je vois. Et on a eu récemment un débat dans le cinéma qui nous a vraiment, où on s'est écharpé, où on s'est entre cinéastes, parce que, à un moment donné, ça fait depuis 7 ans, les syndicats demandent à ce qu'il y ait une convention. On était la dernière profession où il n'y avait pas de convention collective. On a, après 7 ans de négociations, enfin une convention collective pour que les chefs opérateurs, les monteuses, les habilleurs, enfin tous les gens qui travaillent dans ce métier soient payés correctement. Et figurez-vous qu'une centaine de cinéastes a pris le pouvoir dans notre propre organisation, nous a vidés. Ils ont fait un coup d'État pour nous vider. Pour pouvoir ne pas avoir de convention collective, ils sont allés voir Hollande en disant « Eh oh, nous on veut travailler sans être payés, liberté de création, liberté de création ». Et voilà, et ils sont arrivés à ce que Hollande nomme une nouvelle directrice du CNC qui a négocié jusqu'à 4h du matin avec les syndicats, finalement pour qu'il y ait une dérogation jusqu'au film de 4 millions d'euros, les conventions collectives ne seront pas appliquées. Et ça, voilà. Alors, l'intelligentsia de ce pays... Des réalisateurs connus, dont je tairai le nom ici, se permettent de dire pour la liberté, il ne faut pas qu'il y ait de droits sociaux. Et des gens de gauche hein, qui se le clament haut et fort. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? On est divisé dans notre métier comme ce n'est pas possible. Donc c'est ça qui fait qu'on aboutit à cette situation catastrophique dans laquelle on est. Et moi, je dis, il ne va pas du tout bien le cinéma français. Moi, je vois des films qui sont. À part 2 ou 3 surprises chaque année, sur les 200 films produits, on a quand même beaucoup de films qui sont des films inutiles, qui viennent simplement parce qu'il y a une analyse du marché, c'est une comédie, on croit que ça va marcher, et quand vous regardez de près, c'est des films insipides. inodore et sans saveur, donc qui bouffe un fric public monumental, et des chaînes de télévision, France Télévisions qui investit dedans, et l'avance sur recette, etc., pour des films qui n'ont pas vraiment une urgence, une nécessité. Donc tout ce système ne fonctionne pas. Il est détourné.
Jean-Pierre.
Oui, un petit mot. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Alors sur plusieurs points, tu essayes de racheter tes films, ce qui est très difficile. Moi aussi, mes films ont été rachetés par le bandit dont tu parlais, qui a fait l'affaire du cinéma de Lyon, qui s'appelle Moraviov. Moi, j'étais producteur et réalisateur. On a fait faillite et il m'est interdit de racheter mes films. De toute façon, je n'ai pas les moyens, d'accord, mais ça m'est interdit. Voilà, ils m'ont bien dit, attention, on vous surveille, hein, parce que j'ai fait faillite, je n'ai pas le droit de les récupérer. Voilà. Beaucoup se débrouillent très bien, j'ai fait une faillite honnête, ce qu'ils ne font pas en général les producteurs, ils se débrouillent beaucoup mieux que ça. Je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur Internet, c'est-à-dire que, d'une part, moi j'habite dans un endroit où il y a une salle qui a une programmation mitigée, hein, et si je veux voir un film intéressant, il ne faut vraiment pas que je le loupe. Il y a une séance par-ci, par-là dans la semaine. Il suffit que je tourne la tête ailleurs, il est plus là. Et il n'y a pas tout, loin de là, de tous les films qui m'intéressent. Et la plupart, j'arrive quand même à les voir grâce à Internet, quoi, hein. Bon. Donc je regarde beaucoup les films sur Internet.
Mais quelle économie pour ceux qui les ont fait ?
Quelle économie ? Alors là, c'est l'autre chose que je voulais dire. Mon dernier film, je l'ai fait à fond perdu, personnellement, avec des copains. Et puis il n'est montré que sur... Je l'ai mis sur Internet parce qu'il n'est passé nulle part, sauf quelques... Comme c'est un film un peu militant, donc il est présenté dans des assemblées, les gens organisent des projections comme ça, mais je l'ai mis sur Internet. Évidemment, ça ne me rapporte évidemment rien, ça ne paye pas le coût du film, loin de là. Hein. Enfin, et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas non plus être bisounours avec les festivals, parce que tous les festivals ne sont pas comme Résistance. Je crois avoir compris que vous payez les films que vous diffusez.
Tout à fait, oui. Bien sûr.
Sachez que c'est extrêmement rare dans les festivals. La plupart des festivals ne payent que les grosses machines qui mettent en avant, hein, quand ils prennent un grand film américain, machin, celui-là, ils le payent très cher. Mais alors, ils font un concours, un prix. Alors, si on peut avoir un prix, on ne loue pas les films. Hein. Et puis, on est tellement content de le passer dans leur festival, qu'ils sont tellement gentils de nous le passer, qu'il faut se battre. Il est très rare qu'on arrive à faire payer un film par un festival. J'ai longtemps travaillé avec un ami producteur tunisien, Ahmed Atia, hélas décédé, le grand monsieur du cinéma tunisien, qui a produit tous les grands films tunisiens que vous avez aimés. Et on a ensemble monté une autre association qui s'appelle l'APIMED, l'association des producteurs indépendants de la Méditerranée, sachant qu'en Méditerranée, en général, producteurs et réalisateurs, c'est les mêmes. Et pour défendre le cinéma indépendant méditerranéen, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et lui, il parlait des festivals, de la plupart des festivals, il appelait ça les petites épiceries, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'était la plupart sont des... Comment dire, des petites opérations montées par des gens qui vivent là-dessus, c'est leur vie, et c'est ça qui est en avant, c'est le festival, c'est pas les films, quoi. Hein, ça sert absolument à rien d'y aller, sinon à faire valoir les gens de ces festivals qui font pas forcément en plus un vrai travail de promotion des films auprès du public. Voilà. Et donc voilà, les festivals, c'est pas tout rose non plus, c'est aussi en général, d'ailleurs, les prix, par exemple, sont attribués aux réalisateurs. Mais c'est le producteur qui s'est endetté pour faire le film. Hein ? Moi, j'ai eu des prix à Montpellier, par exemple. Ça a donné une belle prime au réalisateur qui avait été bien payé. Et puis, on est resté avec nos dettes, nous, en attendant. Voilà. Donc, tout ça, les festivals, c'est une chose un peu complexe. Mais ceci dit, la dernière chose, je vous conseille de vous mettre en relation avec la PIMED qui fait un gros travail de promotion du cinéma méditerranéen et entre autres qui on a mis en place une sorte de marché du cinéma à Sitges tous les ans qui marche bien, enfin, où il se passe vraiment beaucoup de choses intéressantes. L'APIMED, c'est un partenaire qui pourrait aussi être en rapport avec votre festival. C'est dans le même esprit, évidemment.
Après, peut-être que le bémol que tu dis sur les festivals, peut-être que c'est aussi la différence entre les festivals qui proposent un palmarès avec une compétition, où justement, là, il faut, on ne demande pas d'argent pour figurer parce qu'on espère un prix et donc des retombées financières beaucoup plus importantes. Et de l'autre côté, il y a des festivals comme le nôtre où il n'y a pas de palmarès. Et donc, oui, on paye pas tous les films, on paye certains films. Mais oui, mais après, c'est à... Oui, certainement que ceux qui ont des palmarès n'achètent pas les films. Mais c'est un choix pour nous de ne pas faire de palmarès, hein, on tient à le dire. Il y a une question tout en haut.
Oui, bonsoir. Je ne suis pas cinéphile au sens vous l'entendez. Je viens parce que ce sont des films militants. Donc il y a deux questions là. C'est des films militants sur la façon de résister et est abordé ce soir le thème comment résister. Bon, ce qui m'intéresse, c'est qu'après 20 ans de festival, vous faites un peu le bilan ce soir. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel est l'avenir de ce festival, parce que moi j'aime bien venir ici, parce que je fais des belles rencontres. Sans documentaire, enfin, films sont, pour moi c'est quelque chose d'intéressant, d'important. Je me fais une joie de venir, je fais plusieurs heures de route pour venir, comme certaines personnes ici sûrement. Et donc je voulais savoir quel était l'avenir, si vous aviez, vous l'envisagez j'imagine, hein, vous avez parlé de bilan, ce soir, donc où allons-nous, où allez-vous? Merci.
Alors je vais commencer, Marie, tu complètes. Alors, on n'a pas parlé de bilan, parce que justement nous on voulait absolument pas faire de bilan, parce que même si on a une 20e édition, le but du jeu étant d'en faire plus après. Donc on a essayé d'éviter de tomber dans ou l'autocongratulation ou justement la rétrospective, à part justement le film de Jean-Pierre qu'on a diffusé hier, qu'on a projeté hier, Faire kiffer les anges, qui avait été diffusé lors de la première édition du festival. Donc on avait vraiment envie de cette petite boucle, ce petit clin d'œil là. On n'a pas eu envie d'être dans la rétrospective, donc peut-être que après, peut-être qu'on fait un bilan parce qu'on a 10 ans d'organisation derrière nous, il y a forcément un bilan d'étape peut-être. Après, notre avenir, il est où? Ben, il est avec vous déjà. Enfin, après, ça dépend. Nous, on est un festival qui est évidemment subventionné par des collectivités territoriales, mais où il y a un autofinancement très très fort par deux sources, la billetterie et la buvette sur le festival. C'est vraiment, et c'est rare, on a vraiment un autofinancement très très fort grâce à ces deux postes-là. D'où l'intérêt qu'il fasse un peu chaud pour que vous buviez, mais pas trop pour que vous veniez dans les salles. Donc aujourd'hui, c'est pas mal, mais la buvette risque d'être un petit peu plus faible. Mais voilà, c'est... Après, je ne connais pas les modèles économiques des autres festivals, mais c'est vrai que nous, on est subventionnés, évidemment. Évidemment, sinon on ne pourrait pas vivre. On ne pourrait pas avoir deux salariés à l'année. Mais on a un autofinancement très, très fort.
L'avenir, il ne dépend pas de nous, il dépend de vous. Enfin, les choses n'existent que parce que vous êtes là et pour vous, spectateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai connu le festival, j'avais 16 ans à Tarascon, avec Ken Loach et Tavernier qui ont débarqué. Et j'ai suivi le festival d'abord de près, puis je m'en suis un petit peu éloignée parce que... Pour ceux qui connaissaient l'histoire du festival, il y a eu un moment où l'organisation interne de ce festival ne correspondait pas du tout à ce qui était proposé à l'extérieur, comme beaucoup de structures qui se disent militantes, comme énormément de structures et de cinéma et de festivals. Et puis, depuis quelques années, en fait, le festival auquel vous participez en tant que spectateur, je ne dis pas qu'il est irréprochable en interne, mais j'ai rarement rencontré un espace... Et je dis ça avec peut-être ma naïveté politique mais, ou ma méconnaissance. Mais j'ai rarement rencontré un espace collectif qui revendiquait des positions, des postures, des doutes aussi, mais qui revendiquait des choses qu'il appliquait en interne. Il y a un conseil d'administration collégial, il y a une manière de fonctionner et de penser totalement horizontale. À ma connaissance, c'est l'un des rares festivals de cinéma où il n'y a pas de programmateur. Il n'y a que des comités de programmation. Ça fait 3 ans que je fais partie d'un comité de programmation à Toulouse, avec des gens qui ont des investissements différents, qui ont des sensibilités au cinéma différentes. Et puis surtout, c'est un espace où on se retrouve enfin, nous, cinéphiles et militants. Moi, très honnêtement, je suis venue au militantisme par le... Enfin, je pense, me diriger vers le militantisme par le cinéma. Et d'autres arrivent au cinéma par le militantisme. Et je crois que c'est ça la force du Festival Résistance. C'est d'une part de se questionner, de douter. Ce qui est très important aussi, et on a eu beaucoup de plaisir ce matin à voir les 380 petits bambins qui ont rempli notre salle en haut, voilà, c'est le renouvellement des publics. Donc je regarde la salle aujourd'hui et je la regarde dans les débats. Moi, personnellement, je suis un peu triste que ce renouvellement des publics soit présent aux séances mais pas forcément présent aux débats. Je pense que c'est quelque chose vers lequel il faut vraiment travailler parce que c'est, sans ça, on va mourir. En même temps, des espaces comme Nuit Debout, tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle nous prouve bien qu'il y a une demande très forte d'espace collectif de prise de parole, et le cinéma c'est avant tout un espace public, et les festivals sont aussi un espace public de rencontres, d'échanges et d'engueulades et de construction et d'imaginaire et de rêves. Donc l'avenir il est là, en fait, il est dans notre... Je pense dans nos rencontres, dans le renouvellement des publics aussi, et dans cette réflexion sur la transmission, parce que les militants, on parlait de l'anniversaire de 68 avec Jean-Pierre, voilà, une génération s'en va, une génération qui n'a peut-être pas forcément totalement peut-être passé le relais aussi, d'un certain relais de militants. Et voilà, nous on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. On y travaille énormément dans le cadre de nos comités d'habitants, toute cette réflexion sur, c'est pas forcément aux spectateurs à venir se déplacer chez nous, c'est ici nous à se déplacer, à ouvrir les portes et aller sur des territoires qui sont pas les territoires de la salle. Moi ça fait, j'étais une ayatollah de la salle de cinéma, j'étais de ceux et celles qui avait le coup de poing facile quand il y avait quelqu'un derrière qui me grignotait du pop-corn de manière intempestive alors que je regardais un film contemplatif. Ça fait quelques années maintenant que j'ai mis de l'eau dans mon vin, et le cinéma doit exister, la salle de cinéma doit exister, Internet également avec ses réseaux de diffusion, mais c'est aussi qu'importe en fait l'endroit où ça se passe, il faut que la rencontre ait lieu, et pour se rencontrer, il faut sortir de ses arcanes et sortir de ses habitudes, ça c'est très important. Je crois que l'avenir, il est là.
Attendez, c'est moi, si je peux juste rajouter quelque chose aussi sur l'avenir, parce qu'on est, comme on l'a dit, on est un collectif, et notre avenir, c'est aussi le pari qu'on s'est donné de continuer à fonctionner en collectif de cette manière-là, quoi. Comme elles l'ont dit, on est une trentaine à travailler tout au long de l'année pour que le festival fonctionne, c'est quand même pas banal. Et donc ça vient aussi dans le renouvellement du collectif et aussi avec le fait que ce collectif fonctionne. Mais ça, on en parlera aussi plutôt demain.
C'est un super teaser pour demain, parce qu'on va faire un deuxième débat, hein, demain. Non, sur les pratiques collectives. Ça sera pas, on sort du cinéma, mais comme Marie vous a expliqué, il y a, dans l'histoire du festival, on a repris l'association qui porte actuellement le cinéma. Le festival a repris le Résistance il y a 10 ans. Et on a envie de s'interroger sur les pratiques collectives, parce qu'elles ne sont pas évidentes, elles ne s'imposent pas comme ça, elles se créent, elles se travaillent, elles s'inventent tous les jours. Avec Nuit Debout, on a vu qu'il y avait des désirs de travailler autrement, de parler autrement, de s'investir autrement. Donc demain, à partir de 14h30, on a envie de faire un débat dehors sur comment se vivent ces pratiques collectives, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde associatif, dans votre investissement, comment on peut les inventer, parce que c'est à créer... par les personnalités et par les actualités. Oui.
Oui, il semblerait qu'il y ait effectivement, enfin, je voterai coupable sur le défaut de transmission, enfin, d'une génération peut-être plus ancienne qui avait pas le choix qu'il y a maintenant. Donc on sait peut-être, mais je pense que il y a la dame de l'Aveyron là qui a parlé tout à l'heure, oui, avec les lunettes rouges.
C'est elle, c'est. Diane Daigle. D'accord. Diane Daigle.
Et je pense qu'il y a un effort aussi, enfin, il y a une démarche individuelle à faire, enfin, qui est peut-être difficile pour les jeunes, parce que, bon, enfin, les jeunes, les plus jeunes, disons, une démarche, mais je pense qu'il faut peut-être, oui, effectivement, faire des kilomètres, il faut peut-être s'informer, aller chercher l'information pour trouver pour ne pas, et utiliser peut-être l'arme du boycott, bon, enfin, qui est. Je sais pas, enfin, vous en avez un petit peu parlé, parce que nous, on ne connaît pas, en tant que spectateur, on ne connaît pas toutes les arcanes du cinéma, comment ça se passe. Enfin, c'est vrai que M. Thorne l'a expliqué tout à l'heure, mais c'est vrai que pour nous, si on ne vient pas dans des lieux spécifiques pour entendre ce genre de... Ce n'est pas évident, et on ne sait pas... Enfin, je reviens à ce qu'une personne a dit tout à l'heure. c'est, il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, je veux dire. Enfin, voilà.
Après, ce que oui. Je disais, plus que la logique de boycott, c'est de participer à l'organisation de séances. Il y a par exemple, c'est vrai que d'être dans une position d'acteur et d'actrice, je sais que par exemple, il y a des salles de cinéma, il y a des films qui vivent grâce à leurs spectateurs, en fait, où c'est les spectateurs qui poussent leur cinéma à dire « j'aimerais bien qu'il y ait tel film qui vienne ». Ça, on sait que dans les films dits, entre guillemets, militants, même si j'aime pas les appeler comme ça, les spectateurs et les réseaux associatifs et les réseaux militants, ils permettent à ces films-là de vivre parce que c'est eux qui demandent à la salle et qui disent on veut qu'il y ait la séance, est-ce que c'est possible qu'il y ait la séance, et qui du coup ramènent le public aussi. Enfin, voilà. C'est largement pratiqué et ça participe de la que des films soient qui ne seraient pas exposés puissent être exposés. Donc, et ça, c'est pas très compliqué à mettre en place et à organiser. C'est un exemple.
Dernière question, parce qu'on poursuivra autour d'une bière pour faire tourner la buvette.
Oui, pas une question, mais une remarque. C'est vrai que si vous voyez peu de monde aux discussions, c'est que parallèlement, il y a des films en salle.
C'est ça, c'est le festival de la frustration.
Quand tu es mandaté par ton association pour
repérer des films... Donc à cause de nous, vous avez loupé le film de 18h, c'est ça ?
Oui.
Mais nous aussi, voilà.
Bien sûr. Non, mais voilà. Et donc, c'est vrai que...
On mettra en place un replay, en fait. Il y a la salle off, mais on essaiera de faire un autre système beaucoup plus performant.
Je sais pas, mais enfin, bon, un festival, c'est toujours frustrant parce qu'on n'arrive pas à voir tout.
C'est ça. Ouais.
Mais sinon, moi, je suis dans une petite association en Aveyron qui fait un petit festival, rencontre à la campagne. Et pour ceux qui auraient encore des envies de cinéma, on passe presque tout, c'est de l'art et essai. On doit avoir deux avant-premières pour faire quand même plaisir aux gens qui ont besoin de ce cinéma-là. Si on a des informations comme quoi le film n'est pas nul, mais sinon, franchement, on paye tous les films. Et comme vous, c'est la buvette et la billetterie qui fait rentrer des sous. Hein. Il y a des subventions.
C'est les personnes qui vont
rentrer. C'est les bénévoles qui font la richesse de l'association avec la programmation faite par des bénévoles. Enfin, tout est fait par les bénévoles. Ouais. Et nous n'avons qu'une salariée. Et déjà, on est content de l'avoir parce qu'on n'arriverait pas à faire tout ce que fait l'association. Voilà.
Mais c'est chouette de finir là-dessus. C'est-à-dire que la richesse du cinéma, c'est les personnes qui le font, qui le voient. Et donc, c'est parfait. Et qui le montrent. Ouais.